Alors les surprises parties vont prendre de l'ampleur au fur et à mesure de l'âge. C'est-à-dire qu'à 15-16 ans, ça reste petit. À 17 ans, on a 50 personnes. À 19 ans, on en a 200.
Also die Partys gewinnen dann Umfang. Also mit 15 sind es halt bescheidene Kleinpartys. Mit 17 legt man vielleicht 50 ein und mit 19 sind es dann 200.
On est en 1939. On sait que la guerre, la déclaration de guerre ne va pas tarder. Donc c'est une façon aussi pour cette jeunesse d'en profiter aussi.
Also wir sind im Jahr 1939 und man weiß, dass es zu einer Kriegserklärung kommen wird. Und es ist auch ein Mittel für diese Jugend, also von ihrem Leben zu profitieren.
Ce qui va pas être du goût de tout le monde à Ville-d'Avray, là où Boris Vian habite, dans une petite bourgade de la banlieue parisienne, c'est que les Vian, avec beaucoup d'amis, vont continuer les surprises parties, même après la déclaration de guerre.
Das stößt nicht immer unbedingt auf Gegenliebe, also da wo sie wohnen, in Ville-d'Avray, werden sie auch nach der Kriegserklärung weiter diese Surprise Party durchführen.
Alors, qui va à ces Surprise Party? C'est aussi intéressant de le noter. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi tant de jeunes, moi j'ai rencontré, il y a beaucoup de gens de Ville-d'Avray qui sont allés à ces Surprise Party. Qui étaient-ils?
Wer waren diese Jugendlichen, die da zu diesen Partys gegangen sind? Also, sie selbst hat viele in Ville-d'Avray getroffen, die bei diesen Partys waren.
Tout simplement, la plupart étaient issus des grandes écoles, allaient dans les grandes écoles, Polytechnique, les mines, Centrales, parce qu'il y avait un quota de jeunes qui étaient exempts d'aller s'engager ou d'aller à la guerre pour effectivement continuer les études. Et en fait, c'est pour ça qu'il y avait tout un tas de jeunes personnes, des garçons, des filles, qui venaient.
Also, es waren meistens junge Leute, die in den grandes écoles waren. Und weil sie in den grandes écoles waren, die mussten sie nicht in den Krieg ziehen. Und die trafen sich da.
Du reste, le monsieur que je vous citais est issu de Polytechnique, il s'appelle Claude Abadie, il a 96 ans, il joue toujours et il a toujours un orchestre, et c'est lui qui a formé avec Boris Vian son premier orchestre de jazz.
Also, je möchte une personne citer, Claude Abadie, un Mann, der Polytechnique gemacht hat. Das ist eine militärische Ingenieurshochschule, die sehr schwierig ist. Und er hat, er ist 96 und steht immer noch seinem Orchester vor und er ist derjenige, der das erste Orchester oder die erste Band mit Boris Vian gegründet hat.
Boris Vian choisit la trompette parce que c'est un instrument léger qu'on peut amener partout, et ça c'est très important quand on est malade du cœur, car je n'ai bien sûr pas encore abordé ce sujet.
Also, Boris Vian wählt die Trompete und das ist ein Instrument, mit dem man überall hingehen kann. Das ist wichtig, weil Boris Vian eine Herzkrankheit hat, was ich noch nicht erwähnt habe.
Mais comme toujours avec Boris Vian, il y a toujours beaucoup de contradictions. Car oui, la trompette est légère, mais vous pouvez imaginer qu'elle est totalement contradiqué par son médecin.
Und wie immer gibt es Widersprüche bei Boris Vian, denn einerseits liegt diese Trompete nicht viel, aber sie ist natürlich strikt vom Arzt verboten für das, was er hat.
On ne sait pas très bien d'ailleurs d'où vient cette première trompette. Certainement son père l'aura achetée d'occasion, ce qui vaut cette chanson qu'il écrit plus tard avec Henri Salvador, Trompette d'occasion.
Also man weiß nicht, woher diese Trompete stammt, aber man geht davon aus, dass sie von seinem Vater gekauft wurde, was später zu einem Song mit Henri Salvador geführt hat, gebrauchte Trompete.
Son frère Alain, qui ne fait rien, toujours rien à l'école, lui fait de la batterie, et Lélio fait de la guitare.
Also sein Bruder Alain, der immer weiter in der Schule nichts macht, spielt Schlagzeug und sein anderer Bruder spielt Gitarre.
En fait, Alain va rapidement ouvrir, pendant la guerre, en 43 je crois, il va ouvrir un magasin d'instruments de musique insolite.
Pianiste.
Exactement.
Euh, also sein Bruder Alain wird während des Krieges, sie glaubt 1943, ein Geschäft für ungewöhnliche Musikinstrumente eröffnen.
Et son frère aîné Lélio va ouvrir lui une petite librairie.
Und sein größerer Bruder Lyon wird eine kleine Buchhandlung eröffnen.
Quant à Boris Vian, en 1942, il décroche son diplôme d'ingénieur.
Und Boris Vian, 1942, wird, also erhält sein Diplom als Ingenieur.
Comme le magasin d'instruments de musique ne marche pas et comme la librairie ne marche pas,
da weder das Musikgeschäft noch die Buchhandlung gut laufen,
car ils sont assez fantaisistes, ces deux garçons, c'est Boris Vian qui a tout de même à charge toute la famille.
Ist es schließlich Boris Vian, der die ganze Familie ernähren muss?
La maman, la sœur de la maman qui habite toujours, la tante, le papa, et puis les frères, les sœurs, mais aussi les femmes, enfin tout le monde.
Also der Vater, die Mutter, die Schwester der Mutter, die bei ihm wohnt, also die Tante, und natürlich die Brüder und Schwestern, und die Frauen, die dann bei ihnen leben.
Donc Boris Vian est un jeune homme très courageux, d'autant qu'il est tombé malade à l'âge de 12 ans, d'un problème de cœur, qui s'est aggravé à l'âge de 15 ans, avec une typhoïde.
Also, Boris Vian ist umso mehr ein mutiger junger Mann, als er seitdem er 12 ist, eine Herzkrankheit hat, die eine Komplikation dadurch bekommen hat, dass er mit 15 an Typhus erkrankt ist.
Hormis le fait que la maman va toujours lui mettre des tas de cache-nez et des tas de pullovers pour qu'il n'attrape pas froid, il n'y a pas grand-chose à faire.
Also man kann ihn nicht heilen und es gibt nicht viel zu tun, außer dass ihm seine Mama immer viele Pullis und Schals gibt.
Alors cette trompette et ce jazz est une façon de défier le destin.
Also diese Trompete und der Jazz allgemein ist eben ein Mittel, dem Schicksal entgegenzustehen, also eine Herausforderung an das Schicksal.
Et de commencer d'écrire va être aussi une sorte de façon d'avoir plusieurs vies.
Und Schreiben zu beginnen ist für ihn eine Art, mehrere Leben zu haben.
Car Boris Vian va écrire beaucoup, beaucoup plus qu'il n'a joué. C'est presque un mythe, le mythe de Boris Vian à Saint-Tropez. Ah, pardon, à Saint-Tropez d'ailleurs aussi, il va monter des boîtes de nuit. Mais c'est un mythe à Saint-Germain-des-Prés de penser que Boris Vian a joué des nuits entières pendant des années entières. C'est absolument faux, il en aurait été incapable.
Also es ist absolut ein Mythos zu denken, dass also Boris Vian viel in Saint-Germain gespielt hätte, viele Nächte lang. Er ist vor allen Dingen ein Autor, der viel schreibt, und er wäre überhaupt nicht in der Lage gewesen, Nächte lang in Saint-Germain zu spielen, wie man immer sagt.
Du reste, Juliette Bricot, que je vois de temps en temps, me disait que Boris, à chaque fois qu'il montait sur scène, au Tabou ou au Club Saint-Germain, et qu'il jouait de la trompette, elle disait « il nous offrait son cœur ». Car nous savions tous qu'il était malade du cœur. Alors il jouait la trompette avec son cœur et il nous offrait vraiment son cœur au sens littéral.
Also Juliette Grimbaud, die Madame Berthold öfters trifft, sagt, dass jedes Mal, dass Juliette Grimbaud sich daran erinnert, dass jedes Mal, wenn Vian spielte, sie alle den Eindruck hatten, dass er ihnen sein Herz schenkt, weil er mit seinem Herzen gespielt hat.
Mais comme Boris Vian a un mental très fort, une éducation très solide, hein, il va toujours de l'avant et il ne tient absolument pas compte de sa maladie et il vit 20 heures sur 24 en moyenne.
Da Boris Vian einen sehr starken Charakter hat und sehr lebensfreudig war, ignoriert er seine Krankheit und lebt mindestens 20 von 24 Stunden.
Avec sa femme, Michelle, ils parlent tous les deux américain. Et je précise bien, pas anglais, américain, car il s'était appliqué à apprendre le slang, qui est l'argot américain, qui était très important pour accueillir tous les Américains qui étaient restés à Paris. Et donc, c'était très important pour eux aussi de les emmener danser le bebop et certains étaient aussi des musiciens et ça faisait comme ça un public merveilleux.
Also Boris Vian sprach mit seiner Frau Michelle immer amerikanisch, ich sage bewusst amerikanisch und nicht englisch, weil es ihm darauf ankam, die amerikanischen Musiker zu empfangen, die Bebop gespielt haben zum Beispiel. Ihm lag besonders daran, also den Slang zu beherrschen, also den amerikanischen Slang, nicht die amerikanische Umgangssprache.
Et le jeune Miles Davis, qui est très jeune, qui a 20 ans à ce moment-là.
Und der junge Miles Davis, der damals sehr jung war, war damals 20.
Voilà, qui est très timide, qui joue déjà incroyablement bien, va devenir très ami avec Boris Vian, puisqu'ils sont tous les deux trompettistes, mais il faut quand même dire que Boris Vian est un piètre trompettiste.
Und der junge Miles Davis, der damals noch sehr schüchtern war, der aber dann zum Freund von Boris Vian wird und auch Trompete spielt, aber man muss dazu sagen, dass er also ein sehr guter Trompeter werden wird. Man muss dazu sagen, dass Boris Vian nur ein mäßiger Trompeter war.
Alors bien sûr, le rêve de Boris Vian, c'est d'inviter Duke Ellington.
Also der Traum von Boris Vian ist es, Duke Ellington.
Même si déjà il a des rêves déjà exaucés, puisque Charlie Parker, puisque Dizzy Gillespie, et donc Miles Davis, le fameux trio bebop, viennent jouer chez lui et viennent d'ailleurs à sa maison.
Also, ein Teil seiner Wünsche ist aber schon erfüllt worden, neben Duke Ellington, den er sich herwünscht, nämlich Charlie Parker und Dizzy Gillespie. Waren die bereits bei ihm und auch bei ihm zu Hause.
Il va donc réaliser son rêve après en 48 où Duke Ellington va être invité pour un immense concert et où Boris Vian sera son interprète. Il y a une émission de radio qui est absolument ravissante parce que Boris Vian est tellement intimidé par Duke qu'il n'arrive pas à sortir trois mots d'anglais et qu'il est obligé de passer le micro à quelqu'un d'autre.
Also, sein Traum wird dann 1948 Wirklichkeit. Duke Ellington kommt nach Paris und ist dann Gast einer Radiosendung, bei der Boris Vian übersetzen soll. Aber er ist so beeindruckt von Duke Ellington, dass er kaum drei Worte herausbringt und sein Mikrofon weitergeben muss, damit jemand anderes übersetzt.
Donc vous voyez, la vie de Boris Vian est comme un gâteau français qu'on appelle le millefeuille. C'est-à-dire qu'il y a le jour, la nuit, le matin, on écrit des chroniques pour des journaux de jazz et pas de jazz, on écrit des nouvelles, il écrit ses romans sous Boris Vian et sous Vernon Sullivan, il fait du jazz, il accueille des gens, et il peint, il fait de la peinture, il fait de la radio. Il tient une émission de radio aussi américaine et il fait énormément de choses, beaucoup trop de choses.
Also er macht unheimlich viele Dinge, die sie genannt hat. Er publiziert unter seinem eigenen Namen oder unter dem Namen, unter dem Pseudonym Vernon Sullivan. Er macht Radiosendungen, er schreibt Gedichte, er kümmert sich um Jazz und er macht alles Mögliche, eigentlich viel zu viel.
Et il va avoir une deuxième immense déception. Il en a donc eu une immense avec l'étude des jours, il en aura une seconde avec ce fameux livre de J'irai cracher sur vos tombes.
Also wird eine zweite große Enttäuschung haben, nach der ersten großen Enttäuschung, die Publikation von L'Écume des Jours betrifft, mit seinem Text J'irai cracher sur vos tombes. Also ich werde auf, wie ist der deutsche Titel? Darum genannt. Also es ist wörtlich übersetzt.
C'est un livre qui toujours aujourd'hui est un livre abordé d'une façon comme ça, parce que ce livre a été donc interdit par la justice française et en même temps que Sexus de Henry Miller. C'est quand même important, il y a eu une vague d'écrivains français et pas que français qui étaient installés à Paris, comme Henry Miller, qui ont été interdits à ce moment-là. Et le procès s'est passé en même temps avec Henry Miller.
Also zeitgleich zum Prozess von Henry Miller, Sexus, das also von der französischen Justiz auf den Index gesetzt wurde, wurde auch sein Buch verboten und es gab eine ganze Reihe amerikanischer Schriftsteller, die in Paris lebten und deren Texte also verboten wurde und das fand gleichzeitig statt und sein Buch wurde auch verboten.
Qu'est-ce que j'irai cracher sur vos tombes? C'est toujours cette même contradiction de Boris Vian. Il adore les États-Unis, il est américanophile, bien évidemment. Mais en même temps, il fait ce livre où il dépeint l'attitude de certains Américains blancs qui tuent, tout simplement, on le sait malheureusement que trop, à travers le Ku Klux Klan, qui tue donc des Noirs américains. C'est toute l'histoire du livre, très schématiquement. Donc, étant donné que nous sommes en 1946, où les Américains viennent en plus de libérer la France, ce n'est pas du tout bien vu.
Also, hier haben wir wieder einen der zahlreichen Widersprüche von Boris Vian, der einerseits Amerika über alles liebt, sehr amerikanophil ist, und andererseits in seiner Geschichte, die sehr schematisch darin besteht, also dass Schwarze von weißen Amerikanern verachtet bzw. aufgehängt werden. Das ist eine Geschichte, die überhaupt nicht gut ankommt, 1946, nachdem Frankreich und insbesondere Paris von den Amerikanern befreit worden ist.
Et puis, très important, il y a dans ce livre une scène qu'on a qualifiée rapidement de pornographique. C'est-à-dire que vraiment, elle a tout le process est basé là-dessus. On n'a finalement plus voulu parler des Noirs américains et on s'est fixé sur la pornographie du livre.
Es gibt in diesem Buch eine Szene, die man als pornografisch bezeichnet hat, und der ganze Prozess hat sich auf diese eine Szene konzentriert. Man hat da nicht mehr über diese Verfolgung der Schwarzen gesprochen und der ganze Prozess hat sich also um diese Sachen gedreht.
Donc Boris Vian a été vraiment traité dans la presse française, mais vraiment ça a duré des mois, de pornographe et de quelqu'un qui avait une atteinte aux bonnes mœurs françaises.
Also in der ganzen französischen Presse wurde Boris Vian monatelang als Pornograph bezeichnet und als jemand, der die französischen Sitten, also gegen die französischen Sitten verstoßen hätte.
Donc ce livre, J'irai cracher sur vos tombes, est sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, et comme Boris Vian ne veut jamais accepter ce que les autres disent, il refait un autre livre, puis un troisième, puis un quatrième, voilà, en 1947, 48, 49, 50, qui sont à peu près du même genre.
Also, weil Boris Vian gerne widerspricht, und dieses Buch hat er unter dem Pseudonym Bernard Sullivan gemacht, wird er ein zweites, ein drittes, ein viertes und ein fünftes, ich weiß nicht, wie nett ich sage, Buch schreiben, jeweils ein Buch pro Jahr.
Cela aussi, ça ne sera pas du goût de sa femme. Finalement, à un moment donné, sa femme aussi, comme si je puis dire, elle va craquer. Si elle l'a soutenue au début de son histoire d'écrivain, elle ne trouve pas ça drôle et elle commence à se rapprocher très étroitement de Jean-Paul Sartre.
Bon. Encore une. Gut. Also, irgendwann reißt seine Frau den Geduldsfaden und sie beginnt sich immer stärker und dann fühlt sich mehr und mehr Jean-Paul Sartre zu näher.
Ce ne sera pas exactement une maîtresse de passage pour Jean-Paul Sartre, car Michel va vivre aux côtés de Jean-Paul Sartre pendant plus de 30 années jusqu'à sa mort.
Also es ist nicht eine der, sagen wir mal, vielen zeitweisen Interessen von Sartre, denn Michel wird an der Seite von Sartre 30 Jahre verbringen.
Elle va traduire des articles pour lui, elle va préparer des articles pour lui, elle va s'occuper de son secrétariat, et comme elle fait de la graphologie, elle va beaucoup analyser parfois les lettres qu'il reçoit.
Also, sie wird Artikel für ihn übersetzen, auch Artikel vorschreiben und sich um seine Korrespondenz kümmern. Und da sie sich mit Graphologie befasst, wird sie auch die Briefe analysieren, die Sartre bekommt.
Bref, elle devient sartrienne.
Sie wird Sartrianerin.
Et elle estime que Boris est un petit joueur qui ne veut pas rentrer dans la cour des grands. Et qui, avec Camus, avec Sartre, avec Bost, Merleau-Ponty, et qu'il préfère s'amuser à faire des choses qui lui semblent pas très intéressantes.
Und sie betrachtet also Boris Vian als einen, der nur Kleinspiele spielt und es nicht schafft, mit den Großen mitzuhalten, eben wie Sartre, Camus und Merleau-Ponty.
Donc Boris Vian à ce moment-là va partir s'installer à Saint-Tropez, on est en 49 ans.
Also 1949, zu diesem Zeitpunkt, wird sich also Boris Vian in Saint-Tropez niederlassen.
Saint-Tropez, c'est une petite ville, je crois que le monde entier connaît, et où on a demandé à Boris Vian de recréer des clubs de jazz.
C'est une petite ville, auf der Côte d'Azur, que vous tous connaissez, où on a Boris Vian gebeten hat, jazz clubs zu gründen.
Et il va rester pendant au moins un an ou deux là-bas, un an, plus d'un an, et quand il reviendra à Paris, il prend ses manuscrits et ses disques de jazz et il s'en va s'installer à Montmartre.
Also er bleibt mehr als ein Jahr da unten und als er zurückkommt, nimmt er seine Manuskripte und seine Jazzplatten und lässt sich also in Montmartre nieder.
Car il habitait avec Michel dans l'appartement de ses parents à Michel. Comme souvent pendant la guerre, les gens n'ont pas de moyens, pas beaucoup de moyens, on manque de place. Donc en fait, il habite avec sa femme et ses beaux-parents et ses deux enfants.
Denn er wohnte also bei den Eltern seiner Frau, denn während des Krieges war es oft so, dass man wenig Platz hatte. Und er wohnte in dieser Wohnung zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern.
Il a beaucoup de mal avec tout ça.
C'est très schwierig für ihn.
Parce que je ne vous ai pas dit quelque chose de très, très, très grave. Son père, en 1944, s'est fait assassiner. Alors, je ne sais pas s'il y a l'équivalent, mais par, si vous pouvez expliquer, par des faux FFI. C'est une histoire de règlement de compte, de, comme il y a eu malheureusement beaucoup à cette période troublée de 1944.
Also, es ist ein sehr schwerwiegendes, gravierendes Ereignis in seinem Leben. 1944 wird sein Vater ermordet, und zwar von falschen Widerstandskämpfern. Es hat damals, in der damaligen Zeit, es hat zu damaligen Zeit sehr viele Abrechnungen gegeben unter Franzosen, so Liebesaffären bei Schulden und so weiter. Und er wurde unter dem Motiv der sogenannten Kollaboration wurde von falschen Widerstandskämpfern Leute einfach umgebracht. Und da das für die Befreiung von Frankreich war und von Widerstandskämpfern offiziell, sind diese Morde nie aufgeklärt worden. Es hat da nicht nur einen gegeben, es hat da sehr viele gegeben. Und das waren sehr oft private Abrechnungen einfach, die unter dem Mantel des Widerstands dann, und einer dieser Abrechnungen ist eben der Vater von Boris Vian zum Opfer gefallen.
En fait, c'était des cambrioleurs qui voulaient s'infiltrer dans la maison. Et pour voler les quelques petites choses qu'ils avaient encore.
Also, es waren Einbrecher, die das Haus eingedrungen waren, um die Dinge zu stehlen, die es da noch gab.
Donc, Boris Vian a enchaîné beaucoup de choses entre pendant la guerre, à la fin de la guerre, avec ensuite le jazz, avec l'écriture, avec sa femme et ses deux enfants. Je fais une parenthèse importante. Boris et Michel sont beaucoup de choses, mais pas du tout parents.
Also Boris und Michel sind einiges, aber auf keinen Fall Eltern.
Ils se sont très très mal occupés de leurs enfants, c'est-à-dire la réalité.
Sie haben sich ganz schlecht um ihre Kinder gekümmert.
Encore aujourd'hui, Michel me dit, je n'aime pas les enfants, je ne suis pas une maman.
Also noch heute sagt Michel, ich mag keine Kinder, ich bin keine Mutter.
Et Patrick est toujours vivant, il a 72 ans et il souffre toujours encore de cela.
Patrick ist mittlerweile 72 und er leidet immer noch darunter.
Et sa sœur Carole est morte à l'âge de 48 ans d'une sclérose en plaques.
Und seine Schwester Carole ist mit 48 an multiple Sklerose gestorben.
J'ai été sa tutrice pendant 14 années car sa maman n'a pas voulu s'occuper d'elle.
Ich war 14 Jahre lang ihr Vormund, denn ihre Mutter wollte sich nicht um sie kümmern.
Donc ça a été une lourde responsabilité, mais J'ai appris aussi beaucoup de choses et Carole était une femme tout à fait extraordinaire.
Das war eine schwere Verantwortung, aber ich habe auch viel dabei gelernt, denn Carole war eine wunderbare Frau.
Donc, Boris Vian, en 1950, va se retrouver à Montmartre dans une petite chambre de bonne, comme un étudiant.
Also, Boris Vian wird 1950 sich in einer kleinen Studentenbude wiederfinden, also wie halt, als wenn ein Student wäre.
Plus personne ne veut lire ses livres.
Keiner will mehr seine Bücher lesen.
Il ne voit plus ses enfants.
Er sieht seine Kinder nicht mehr.
Il va divorcer à ses torts.
Er wird zu seinen eigenen Lasten sich scheiden lassen.
Il ne veut plus être ingénieur, donc il a déjà démissionné et jamais plus il ne veut pas y retourner.
Also er will nicht mehr Ingenieur sein und er hat schon seinen Abschied eingereicht und will da auch nicht mehr zurück.
Et son cœur ne veut plus battre.
Und sein Herz will nicht mehr schlagen.
C'est un homme de 30 ans qui est usé, fatigué, déprimé.
C'est un Mann von 30, der verbraucht, müde und deprimiert.
Alors quand Ursula Vian va rentrer dans sa vie, ce sera un grand rayon de soleil.
Und als Ursula in sein Leben tritt, ist das wie ein großer Sonnenschein.
Parce que la chose la plus drôle, c'est qu'elle ne connaît rien de Boris Vian, rien de J'irai cracher sur vos tombes, rien de rien ni de personne, et que c'est ça qui plaît à Boris Vian, c'est que Boris Vian rencontre une jeune femme qui ne sait rien de lui et de toutes ses histoires.
Und als er sich trifft, weiß Ursula überhaupt nichts von seinen literarischen Werken. Und das ist genau das, was Boris Vian gefällt.
Parce que Boris Vian ne sait plus quoi faire, vraiment, il cherche. Et d'un seul coup, Ursula, comme elle est issue du monde de la danse et donc de la musique classique, il y a quelque chose de nouveau d'un seul coup qui le réveille et qui le stimule. Ah, ça, il n'a pas encore fait ça. Alors, il ne va pas se mettre à danser, mais il va se mettre à rencontrer beaucoup de gens du milieu de la danse.
Also, durch Ursula schließt sich immer eine neue Welt auf, nämlich die des Tanzes, die er noch nicht kennt. Er wird zwar nicht selbst tanzen, aber er wird vielen Leuten begegnen, die aus dieser Welt stammen.
Alors, le plus important, le couple le plus célèbre, le plus important avec lequel Ursula travaillait, c'était donc Roland Petit et sa femme Zizi Jeanmaire.
Also, das bekannteste Paar, mit dem seine Frau arbeiten wird, sind Roland Petit und seine Frau Zizi Jeanmaire.
Je les ai rencontrés souvent, car elles sont venues longtemps à la maison.
Ich habe sie oft getroffen, weil sie oft lange ins Haus gekommen sind.
Et la chanson Je suis snob a été écrite en fait pour Zizi Jeanmaire.
Und das Lied Je suis snob ist in Wirklichkeit für Zizi Jeanmaire geschrieben.
Parce que ce qui était intéressant, c'est que Ursula qui...
J'ai une question, vous parliez de vous-même, que vous avez rencontré assez souvent Roland Petit et Boris Vian, non?
Ah, Boris Vian, non, je n'ai pas pu le rencontrer.
Oui, parce qu'il est mort dans les années 50.
Si vous étiez venu au début, vous avez veillé à ce moment.
Allez.
Et donc, La voix que suit Ursula n'est plus la voix classique. Elle est issue du monde de la musique classique et de la danse classique à un très haut niveau. Elle aurait pu être danseuse étoile à l'Opéra de Zurich, ce qu'elle n'a pas voulu faire. Elle veut aller vers l'univers du jazz. Donc c'est une période dans la danse à ce moment où on cherche beaucoup. Et donc il y a une personne qui émerge, bien sûr, qui est Roland Petit, mais il y a Maurice déjà. Et Ursula va devenir une de ses premières danseuses.
Gut, also Ursula hätte natürlich eine klassische Tänzerin sein können, operierte aber der Wiener an der Oper Zürich, aber sie möchte sich zu was Neuem orientieren und die Person, die damals Neues schafft, ist eben Maurice Béjart.
Et que j'ai aussi bien sûr la joie de rencontrer plusieurs fois. Et Ursula, c'était très présent le monde de la danse pour elle, bien sûr. Donc c'était une femme très indépendante, Elle avait décidé à 19 ans de venir toute seule à Paris pour apprendre donc le moderne jazz, ce qu'on appelle le moderne jazz. Donc elle était très indépendante et Boris Vian appréciait beaucoup cela aussi.
Das war eine sehr unabhängige Frau. Sie hatte mit 19 beschlossen, alleine nach Paris zu kommen, um modernen Jazz zu beherrschen und kennenzulernen. Und genau diese Unabhängigkeit gefiel Boris Vian auch.
Mais elle était mineure.
Aber sie war minderjährig.
Alors Boris Vian n'avait juste le droit que d'accompagner Ursula à sa pension tenue par une Suisse du côté de l'Étoile. Et au bout d'un an, ils en ont eu un petit peu assez, alors elle est venue après dans la chambre de bonne.
Also, da sie minderjährig war, durfte sie Boris Vian nur zu ihrer Pension begleiten, die von einer Schweizer
Nonne.
Nonne wahrscheinlich. Halt nur nach einem Jahr hatten sie das satt. Und sie ist dann in die kleine Studentenbude, in das Studentenzimmer von Boris Vian gezogen nach einem Jahr.
Et puis quand l'appartement va être comme, enfin l'appartement, la chambre de bonne va être un peu trop petite pour eux, Ursula va commencer à s'enquérir d'aller chercher un appartement. Mais entre temps, Boris a quand même fait de savants aménagements dans cette chambre de bonne.
Da diese Studentenbude zu klein wird, wird sich Ursula auf den Weg machen, um eine neue Wohnung zu suchen. Aber in der Zwischenzeit hat Boris Vian hoch ausgetüftelte Veränderungen in diesem Zimmer gemacht.
Ursula se souvenait notamment que Boris avait créé une douche qu'il fallait faire descendre du plafond.
Also Ursula erinnert sich daran, dass Boris also eine Dusche geschaffen hatte, die man von der Decke herunternehmen musste.
Et un lit escamotable qui devenait bureau.
Und ein Bett, das man zusammenklappen konnte und das zum Schreibtisch wurde.
Il est bien évident que nous avons quand même affaire à un ingénieur.
Ich habe vergessen, dass er Ingenieur war.
Et lorsqu'Ursula va chercher un appartement, elle va vouloir rester dans le quartier de Montmartre, Pigalle, Blanche, Place Clichy, car c'est un quartier où l'on danse beaucoup, et donc si l'on danse beaucoup, il y a des cours de danse. Et Ursula, en tant que danseuse, a toute sa vie, enfin très longtemps fait des cours de danse, et à cette période-là, elle s'entraînait 6 à 8 heures par jour.
Also, die Wohnungssuche von Ursula konzentriert sich auf dieses Viertel Montmartre, Pigalle, West. Weil es da die ganzen Tänzer gibt und dementsprechend gibt es auch die ganzen Tanzstudios und sie hat damals 6 bis 8 Stunden geübt als Tänzerin. Es war für sie sehr wichtig, in diesem Viertel zu bleiben.
Et la coïncidence merveilleuse a voulu que Prévert ait vent de cette même histoire qui se passait dans les loges arrière du Moulin Rouge, très derrière le Moulin Rouge, qu'il y avait peut-être des appartements, des petits appartements, pas du tout en bon état, qui étaient peut-être à louer.
Und es ist Jacques Prévert zu verdanken, dass er erfahren hatte, dass es in den hintersten Logen hinter dem Moulin Rouge eventuell kleine Wohnungen gab, die vielleicht zu vermieten waren.
Imaginez ce que c'était Paris en 1950, et dans ces deux logements, il n'y avait pas l'eau, pas l'électricité courante.
Stellen Sie sich das Paris der 50er Jahre vor, in diesen beiden Wohnungen gab es also weder fließendes Wasser noch Elektrizität.
Comme Jacques Prévert était lui beaucoup plus connu, célèbre et surtout avec plus d'argent, il a fait venir l'électricité et tout ça, et puis il a refait tout son appartement par un architecte, et notamment par Alexandre Troner, qui était un immense décorateur de cinéma, c'est lui notamment qui a fait les décors des Enfants du Paradis et qui a donc créé l'appartement de Jacques Prévert. J'ai bien connu aussi Tronet qui adorait faire l'éléphant.
Bon, c'est très bien ça. da Jacques Prévert bekannter war und deshalb umso reicher, jedenfalls reicher, hatte er die Mittel, um da Elektrizität und fließendes Wasser kommen zu lassen. Und die ganze Deko, also Innendekoration, wurde dann vom berühmten Architekten Jacques Tronner gemacht, der die Deko de Marcel Canet, c'était Les Enfants du Paradis.
Les Enfants du Paradis
gemacht hat.
Boris Vian, comme lui, il n'a pas le sou. Lui, il lève ses manches, il prend ses marteaux, ses clous, ses choses, etc. Et il va tout installer, l'appartement. Il va tout organiser.
Da Boris Vian kein Geld hat, keinen Heller hat, wird seine Ärmel hochkrempeln und alles selbst machen.
Et puis ça va l'occuper aussi.
Und es wird ihn auch beschäftigen.
Il aime travailler le bois et dans la maison il y a beaucoup de choses en bois. Le bois c'est la vie, ça respire.
Er arbeitet gerne mit Holz und in dieser Wohnung gibt es viele Dinge aus Holz und Holz ist das Leben und ist ein Stoff, der atmet.
Car j'avance dans le temps, on est en 53 quand ils emménagent et 53-54 le couple est tellement heureux parce que c'est leur premier appartement et ça sera d'ailleurs le seul appartement.
Sie ziehen also 1953 ein, 53, 54 und sie sind, das Paar ist da sehr glücklich. In dieser Wohnung wird auch ihre einzige Wohnung sein.
Et à ce moment-là, Boris Vian est très heureux avec Ursula, mais néanmoins, il a toujours des charges et il faut quand même, notamment avec ses enfants, il faut quand même qu'il gagne des sous. Alors comment on gagne des sous ? On fait des arguments de ballet qu'on propose, on fait toujours ses chroniques de jazz à jazzot, on écrit toujours des nouvelles, on fait des traductions de La Dame du Lac, du Grand Sommeil, d'immenses auteurs américains. Boris Vian est très demandé pour ça, sauf que ça nourrit pas suffisamment, et donc il va avoir l'idée de commencer à écrire des chansons.
Also, Boris Vian bemüht sich, Geld zu verdienen, er schreibt seine Chroniken für Jazz Hot. Alors les chroniques pour Jazz Hot, pardon, j'ai oublié les noms.
Oh, une multitude de journaux.
Also, ganz verschiedene Zeitschriften, aber er muss Geld verdienen und deswegen schreibt er jetzt Chansons.
Et il va se dire, ce que le public ou ce que les éditeurs et producteurs ne veulent pas entendre dans mes livres, eh ben, je vais le mettre en musique.
Und er sagt sich dann, was die Verleger in meinen Büchern nicht hören wollen, das werde ich jetzt in Musik fassen.
Et tout comme il écrit des dizaines et des dizaines et des centaines de pages, il va également, pour ses romans et ses nouvelles, il va se mettre à écrire énormément, énormément. Et Boris Vian, en 3 ans, a à peu près écrit 600 chansons.
Genauso wie er also für seine Romane und Novellen Dutzende und Hunderte von Seiten gefüllt hat, wird er also in den, combien d'années, 3 années?
À peu près.
In den 3 Folgejahren, also 600 Chansons verfassen.
Il a des compositeurs musicaux, mais il a toujours l'idée de ce qu'il voudrait comme musique. Il écrit toujours les paroles, une fois, deux fois, trois fois. Il a toujours l'idée précise de la musique. Et à un moment donné, il se dit que si la musique et le texte se mettent en harmonie, alors c'est bon. S'il voit que ça ne marche pas, il ne s'en occupe plus, il passe à autre chose, il réécrit autre chose. Mais pour lui, c'est très important et il le ressent tout de suite. Il dit qu'il n'est pas musicien, mais il sait qu'il a tout de suite l'idée de la musique et il sait si ça va s'accorder. Mais il demande toujours à des compositeurs de faire la musique.
Also, er bittet immer Komponisten darum, die Musik zu verfassen. Und er weiß immer genau, wann die Musik mit dem Text übereinstimmt. Das ist sehr wichtig für ihn. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lässt er das dieses Chanson fahren und geht dann zum nächsten über.
Donc Boris Vian va chercher finalement à s'amuser en faisant ça, parce que il a bien senti que son corps n'en pouvait plus et il va en plus accepter un poste de directeur artistique au moment où quelque part son corps lui dit de tout arrêter. Il va pourtant le faire pour l'amour du jazz, parce qu'on lui demande de s'occuper du plus prestigieux catalogue jazz de Chi Philips, qui a bon, des titres absolument extraordinaires. Et donc, il sait que ce n'est pas raisonnable, mais il va néanmoins l'accepter. Donc, il va faire ça en plus.
Also, obwohl er weiß, dass es nicht vernünftig ist und sein Körper dagegen spricht, wird er künstlerischer Leiter bei Philips, wo er sich also um den Jazzkatalog kümmert. Und obwohl sein Körper dagegen Widerspruch erhebt und er sowieso ohnehin schon sehr viel macht.
Il va donc travailler avec beaucoup d'interprètes, il va rencontrer Georges Moustaki, Edith Piaf, Charles Trenet, Bobby Lapointe, et puis tout un tas de gens qu'on a oubliés malheureusement, Patachou et autres. Enfin, il va rencontrer des centaines de personnes pour lesquelles il va ou écrire ou composer. Il aurait beaucoup voulu écrire pour Edith Piaf, mais le temps lui a manqué. Et puis, au milieu de tout ce travail énorme, il va enregistrer aussi des titres de musiciens jazz. Il est aussi directeur artistique en studio, donc il fait les enregistrements. Au milieu de tout ça, son cœur va s'arrêter et il va être laissé pour mort. Et là, nous sommes en 1956 déjà.
Also, er wird sehr, sehr viele Interpreten treffen, also Georges Moustaki,
Edith Piaf,
Charles Trenet und so weiter.
Beaucoup.
Er arbeitet so viel, dass er 1956 zusammenbricht und für tot befunden wird.
Et il va se remettre.
Aber wird genesen.
Il va tout recommencer ses activités pour un an.
Wird ein Jahr lang alle seine Aktivitäten wieder aufnehmen.
Il va continuer de faire des travaux dans l'appartement.
Wird weiterhin in der Wohnung also Handwerksarbeiten machen.
Et son cœur va encore lui dire stop. Et va refaire encore un œdème pulmonaire qui va le laisser comme mort.
Und wieder wird also ein Lungenödem haben, das ihn wie tot erscheinen lässt.
Et là, M. Lavian va arrêter de danser et va s'occuper de lui à la maison en 1957.
Und da beschließt Ursula, den Tanzen aufzuhören, sich um ihn zu kümmern im Jahr 1957.
C'est là que peut-être un enfant aurait pu naître, et il se trouve que je suis née en 1957.
Da hätte vielleicht ein Kind zur Welt kommen können, und es trifft sich, dass ich 1957 geboren bin.
C'est ce que disait souvent Ursula.
Das ist das, was mir Ursula auch sagt.
Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, Boris Vian sait que c'est la vraie fin. Donc il ne va rien changer à sa vie, il va continuer d'aller quand il pourra à son travail chez Philips, il va continuer d'enregistrer Mangus, Earl Hines et Benny Goodman et tant d'autres très grands musiciens de jazz. Il va continuer de faire des blagues avec le collège de pataphysique et de faire la cuisine avec ses amis, mais il commence à vouloir faire de l'opéra surtout.
Also ab diesem Zeitpunkt weiß Boris Vian, dass das Ende naht. Er geht weiterhin zu Philips, er macht weiterhin Aufnahmen mit Mangus und
Benny Goodman
und so weiter. Trifft auch weiterhin seine Freunde des College de Pataphysik, aber kocht auch, er möchte sich jetzt der Oper widmen.
Finalement, il s'appelle Boris, comme Goudonov. C'est pour ça qu'il s'appelle Boris Vian, parce que sa mère aimait particulièrement cet opéra de Boris Goudonov, et elle a voulu lui donner donc ce prénom. Et puis Vian, c'était d'origine très certainement italienne, et il y avait un A au bout. Donc le Viana devient Vian, et Boris va se retrouver avec ce Boris Vian, qui déjà n'était pas simple à porter. Et donc décidément, Boris Vian aura eu une vie tout à fait déroutante et tout à fait incroyable. Et pour peut-être que la chose soit faite jusqu'au bout, comme il faut être qu'elle soit faite, Boris Vian va vouloir créer un opéra. Et il va avoir lieu cet opéra, il va être joué à Nancy, il s'appelle Le Chevalier de Neige. Et c'est Georges Delerue, qui est un immense compositeur, qui va en faire la musique avec Boris.
Also Boris heißt nicht zufällig Boris, sondern er heißt Boris, weil seine Mutter die Oper Boris Godunov sehr mochte. Und er wird also schließlich selbst eine Oper verfassen, komponieren, avec, vous avez dit?
Georges Delerue.
Georges Delerue, der Schneeritter, die in Nancy aufgeführt wird.
Pour vous donner une petite indication, Georges Delerue est le monsieur qui a fait la musique du Mépris, avec Michel Piccoli et Brigitte Bardot, qui est une musique célébrissime, mais pas seulement. Donc, il a fait énormément de choses, et comme il a trouvé que les Français traitaient mal les musiciens pour films, il est parti habiter à Los Angeles, et il a travaillé avec, entre autres, beaucoup Scorsese.
Also dieser Komponist ist der, der die Musik des Films Le Mépris, die Michel Piccoli und Brigitte Bardot gemacht hat, und ist dann schließlich in die Vereinigten Staaten gegangen, weil er als Filmmusiker sich schlecht behandelt fühlte und hat dann Filmmusiken für Scorsese komponiert.
Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Georges Delerue. Maintenant, il est décédé. Je suis toujours très amie avec sa femme.
Also ich hatte das Glück, Georges Delerue zu begegnen. Er ist jetzt verstorben, aber ich bin immer noch mit seiner Frau befreundet.
Alors, je sais que Boris Vian, il nourrissait Georges Delerue pour faire la musique pour tous ses musiciens, parce que Boris avait fait lui déjà le livret gros comme ça. Et il y avait Georges qui était à la maison et qui faisait toutes les partitions comme ça à main levée pour les 45 musiciens. Il n'avait que 23 ans, Georges Delerue, et il y a Boris qui était à la cuisine et qui faisait, lui, pendant ce temps-là, le petit salé aux lentilles. Tout le temps du petit salé.
Intraduisible. Donc, Boris Vian hat Georges Delerue ernährt. Er hat das Libretto geschrieben, während also sich Georges Delerue um die Partituren kümmerte. Und vor allen Dingen war für die 45 Musiker und Boris Vian stand also am Herd und hat also Petit Salé gemacht, wenn sie dann fertig waren, können sie sehen, was das ist. Es schmeckt sehr gut.
Et puis après ce grand succès qu'on a complètement oublié, ce grand succès de Boris Vian qu'on a complètement oublié, Boris Vian s'est dit que l'opéra vraiment lui plaisait et c'était sans doute aussi une façon de renouer avec sa famille, avec sa mère.
Also nach diesem großen Erfolg, den man vergessen hat, hat sich also Boris Vian sehr für die Oper interessiert und es war auch eine Art, ein Mittel, wieder an seine Familienbande zu knüpfen.
Il va décider d'écrire un opéra, quand il pourra le faire, il va décider d'écrire un opéra. C'est son dernier texte écrit. Cet opéra existe dans une version très très petite, bien sûr, juste. Il s'appelle Le Mercenaire, il traite de la guerre, car bien sûr, la chose qui ronge Boris Vian de l'intérieur, hormis le travail, c'est la guerre entre les hommes.
Also, er beschließt, eine Oper zu schreiben, die nur in sehr reduziertem Format existiert. Sie nennt sich Der Söldner. Denn das, was Boris Vian beschäftigt, ist der Krieg der Menschen untereinander.
Et il va dire lors d'une interview qu'il pense que l'opéra est pour lui la chose la plus intéressante, car elle allie tous les arts.
Also, wird während eines Interviews sagen, dass für ihn die Oper wahrscheinlich das Interessanteste ist, weil die Oper alle Künste in sich vereint.
Et donc Boris Vian enfin va peut-être se démultiplier dans tout ce qu'il sait faire et enfin trouver chaussure à son pied.
Und vielleicht wird sich also Boris Vian in allem, was er beherrscht und kann, entfalten und endlich das Passende finden.
Mais les choses ne sont pas si simples dans sa vie et il lui faut encore et toujours gagner de l'argent, comme beaucoup de personnes dans ce Paris, dans cette France des années 50 qui est quand même en difficulté économique. Et donc il va malheureusement pour lui signer quelque temps auparavant une adaptation de J'irai cracher sur vos tombes au cinéma.
Also, aber das Leben in Paris der 50er Jahre ist nicht so einfach und Boris Vian muss auch Geld verdienen und er wird leider einen Vertrag unterschreiben für eine Filmfassung seines Romans J'irai cracher sur vos tombes.
Ce film ne lui plaît pas. Il n'aime pas le réalisateur, il n'aime pas le parti pris du réalisateur, il n'aime pas les acteurs, il n'a rien contre, mais ce n'est pas du tout l'esprit de son livre.
Also, er mag diesen Film nicht, er mag den Regisseur nicht, man hat nicht die Perspektive dieses Regisseurs und nichts, dass er etwas dagegen hätte, dass sein Roman verfilmt wird, aber es ist für ihn nicht der Geist, der in seinem Roman vorherrscht.
Il est très en colère.
Er ist sehr wütend. Mhm.
Et quand le 23 juin 1959, il y a la projection privée, donc avec l'équipe uniquement et les quelques amis.
Als es die Sneak Preview gibt, als es die erste private, ja, ich wollte nur was Wichtiges sagen. Parce que mes jeunes collaborateurs parlent des langues que je ne maîtrise pas. Parfois il y a des termes du domaine artistique. Donc, es gibt eine erste private Filmvorführung dieses Films am 23. Januar 1959.
Quand il va se rendre, il part de la maison le matin. Ursula a travaillé la veille au soir, donc elle est encore couchée. Il est 10h du matin. Il dit « Ne te lève pas, ne m'accompagne pas, ça vaut pas la peine, c'est pas intéressant, ça m'ennuie. On se retrouve tout à l'heure. » Après la projection.
Als er um 10 Uhr morgens loszieht, liegt Ursula noch im Bett und er sagt, es lohnt sich nicht aufzustehen, bleibt zu Hause, das ist langweilig und wir sehen uns nach der Vorführung.
Ils seront sur les Champs-Élysées, car la salle de cinéma est sur les Champs-Élysées, avec des grands amis très proches, dont Eddie Barclay par exemple, mais aussi son compositeur Alain Goraguer. Donc, et Eddie, que je connaissais très bien, m'a également vraiment expliqué les conditions. Et vraiment, ça s'est passé très simplement, la disparition de Boris Vian, et très douloureusement. Il s'est assis au milieu de ses amis, très en colère. Le film a commencé, et au bout de 10 minutes, il a vraiment dit que ça ne lui plaisait pas, et puis il s'est écroulé dans son siège. Et ils ont demandé à ce que la lumière soit allumée, et ils l'ont allongé par terre pour le cinéma. Et il était mort.
Also er war damals begleitet von Eddie Barclay, mit dem sie auch gesprochen hat, bei dieser Vorführung, und er hat sich nach 10 Minuten unheimlich über den Film aufgeregt und ist dann zusammengebrochen und die Filmvorführung wurde also gestoppt und war dann tot und sie haben ihn dann hingelegt.
Il se trouve qu'il y avait un musicien de jazz qui a été en France très connu et qui est mort la semaine prochaine, que je salue au passage, Benny Vasseur, un tromboniste. Il se trouve que Benny était là avec sa femme, et sa très jeune femme, et ils ont installé Boris dans l'entrée du cinéma avec une petite couverture. Et ils ont bien entendu appelé Ursula, qui, quand Ursula est arrivée, elle s'est couchée à côté de Boris.
Also es gab einen französischen Jazz-Posaunenspieler, Benny Vasseur, der letzte Woche gestorben ist, der anwesend war und sie haben also Boris Vian in der Vorhalle des Kinos hingelegt und mit einer Decke gedeckt und als Ursula dazugekommen ist, hat sie sich neben ihn gelegt.
Et puis comme il était mort sur la voie publique, car le cinéma était considéré comme une voie publique, comme il était mort sur la voie publique, Ursula n'a pas pu ramener le corps à la maison, ce qu'elle aurait voulu faire. Elle aurait voulu bien sûr que Boris soit là, et que tout le monde puisse lui rendre hommage. Donc ça a été assez difficile. Ursula a eu un chagrin bien sûr immense, mais pour ne pas terminer sur cette note sombre, juste pour vous dire qu'à l'enterrement, il s'est passé quelque chose de tellement drôle, qui était vraiment du pur Boris Vian, c'est que quand...
Je ne voulais pas que je traduise d'abord. Ursula hatte großen Kummer, weil ein Kino als öffentlicher Raum angesehen wird und dadurch Ursula daran gehindert wurde, den Leichnam von Boris Vian nach Hause zurückzubringen, damit alle da kommen konnten. Und sie waren wirklich sehr, sehr traurig darüber. Aber beim Begräbnis ist etwas sehr Komisches, typisch Boris Vianhaftes passiert.
À l'enterrement, c'est le 26 juin, il fait une chaleur accablante. Et alors, Le fourgon est là avec le cercueil de Boris à l'intérieur. Et alors, on attend. Et il se passe une heure, et il se passe plus d'une heure. Et à un moment donné, ben, les très proches, entre autres Raymond Queneau, qui veulent savoir de quoi il s'agit, vont voir les gens du cimetière et disent « Qu'est-ce qui se passe ?» Et on lui dit « Les croque-morts sont en grève !»
Ja, also dieses Begräbnis findet am 26. Juni statt, unter einer Bombenhitze. Und alle warten, das dauert über eine Stunde. Und schließlich fragt Raymond Queneau nach und erfährt Folgendes: die toten Gräber streiten.
Et donc Boris a été mis en terre par 8 de ses copains qui ont porté le cercueil et qui l'ont mis en terre.
Also er ist von 8 seiner Freunde beerdigt worden, die also den Sarg in die Erde hinabgelassen haben.
Ceux qui ont vraiment eu le plus de chagrin et qui pleuraient à chaudes larmes, parce qu'ils me l'ont dit personnellement, c'était Georges Brassens et Henri Salvador.
Also die, die den größten Kummer gehabt haben und geweint, viel geweint haben, waren Georges Brassens und Henri Salvador.
Et voilà la fin de Boris Vian, la fin charnelle, et commence le début d'une autre aventure qu'Ursula Vian, le collège de pataphysique, des amis et moi-même. Voilà, vous offrons et pourquoi je suis là aujourd'hui.
Donc, jetzt beginnt eine neue Periode für Boris Vian, die seine Freunde, sie selbst, das Collège de Pataphysique, also jetzt weiter betreiben und aus diesem Grunde ist sie heute bei Ihnen. Ja.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
Donc on fait une petite pause, vous pouvez déjeuner.